Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halu Dmoni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles à travers nos 50 radios partenaires dans tout le pays. Nous sommes lundi 11 janvier 2016. Bienvenue donc et merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur l'insécurité grandissante dans la région de Tombouctou avec l'enlèvement d'une ressortissante suisse vendredi dernier. Nous sommes avec trois invités. Ousmane Cornio, il est spécialiste des questions de sécurité. Al-Qaïd Touré est député élu à Diré dans la région de Tombouctou. Nous aurons en ligne Serge Daniel pour ses éclairages. Il est écrivain. Il est également journaliste et spécialiste du terrorisme dans le Sahel. Merci à vous pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Gagné Kanté est à la technique.
Studio Tamani.
La sécurité s'est quelque peu dégradée dans la région de Tombouctou depuis quelques jours. Pour preuve, la semaine dernière, vendredi donc, une ressortissante suisse a été enlevée dans la région. La piste djihadiste se confirme au fil des jours dans l'enquête sur l'enlèvement donc de Béatrice Stockley à Tombouctou. Pour l'instant, les services de sécurité en charge donc des investigations disposent d'aucune information sur la situation de la ressortissante suisse. Suisse kidnappée en fin de semaine. Le procureur chargé de l'enquête qui a intervenu sur les ondes de l'ORTM dit donc ce week-end a indiqué pour sa part ne pas avoir de nouvelles depuis l'enlèvement et précisant qu'il s'agit d'un enlèvement en relation avec une entreprise terroriste. Alors nous allons voir donc avec nos invités de quoi il s'agit. Alors Ousmane Cornio, vous êtes spécialiste des questions de sécurité précisément dans cette zone du Nord. Dites-nous comment expliquer ces récents mouvements dans la région de Tombouctou.
Oui, merci beaucoup Famoussa. Et vous savez que la crise, elle a été vécue différemment dans les trois régions et qui fait la spécificité de la région de Tombouctou. Quand on prend par exemple la région de Kidal, et tous les acteurs de la région de Kidal, les rebelles et même parfois, et la plupart du temps, les terroristes sont originaires de Kidal. Qui font qu'ils font très peu de mal. Quant à Gao, la plupart des actions qui ont été perpétrées sont perpétrées par des acteurs de Gao, mais qui, après la calmie, ont commencé à se repentir, dans la mesure où ils sont connus par les voisins. Mais quant à la région de Tombouctou, la plupart des actions ont été menées par des étrangers qui sont venus d'ailleurs. C'est pour ça que ils n'ont aucun remords à agir et à perpétrer des actes. Et qui fait que si un acteur, un terroriste n'a pas la moindre sensibilité par rapport à la cause des personnes sur qui il agit, ben il agit c'est-à-dire sans aucune crainte. Et voilà pourquoi à Tombouctou, la situation est encore plus grave, elle est encore perpétrée, parce qu'elle est perpétrée par des gens qui viennent de Tombouctou d'ailleurs, et qui agissent sur des populations avec lesquelles ils n'ont aucun rapport.
D'accord. Merci beaucoup.
Voilà pourquoi dans la région de Tombouctou, on a du mal à saisir un peu les actions menées par ces groupes, soit tantôt rebelles, soit tantôt terroristes.
Merci beaucoup Ousmane Cornio. Alors Serge Daniel, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Aujourd'hui, c'est Tombouctou qui est visé par ce rapt donc de la ressortissante suisse. Il y avait quelques accalmies dans la région. Si on fait fi donc des quelques situations de violence qu'il y avait entre Goundam et plus au sud de Nampala et Ségou, mais la ville de Ségou était la ville de Tombouctou était relativement calme jusqu'à à ce rapt. Qu'est-ce qui explique ce regain de tension?
Alors, de mon point de vue, vous savez que comment la prise de Tombouctou s'est opérée. D'abord, c'est une milice arabe qui a remis les clés de la ville de Tombouctou le premier jour en 2012 à Ouaménéla, et que le lendemain, Yad Rally est arrivé sur place avec les islamistes pour les bouter hors de la localité de Tombouctou. La particularité de Tombouctou par rapport aux deux autres régions, c'est que à 5 km à la ronde, vous avez des groupes armés incontrôlés, mais des groupes armés plus ou moins indépendants. Si vous allez à Ber, hein, vous avez des groupes armés. Si vous faites le tronçon Tombouctou, Gundam, vous avez des groupes armés, vous rencontrez des groupes armés. Je veux dire qu'il y a plusieurs groupes armés de moyenne dimension dans cette zone-là, ce qui fait que c'est difficile de les contrôler tous. Et si vous faites attention, la première fois que le patron militaire de la Benisma a failli tomber dans une embuscade, son convoi a été bombardé, c'était sur l'axe Tombouctou-Gundam. Donc il y a beaucoup de groupes là-bas. En plus, le téléphone fonctionne plus facilement dans ces localités parce que vous savez, parfois vous entendez à Nefis, il n'y a pas de téléphone, à Kidal, la ligne est coupée, alors qu'à Tombouctou, les moyens de communication existent. Je pense que ça, c'est important. Mais l'autre raison également, c'est que, vous savez, Tombouctou, là où l'enlèvement a eu lieu, c'est le quartier nord, à Baradjou. Quand on dit, oui, c'est un quartier dangereux, il faut relativiser les choses. Oui, c'est un quartier dangereux, mais vous savez, on sait de plus en plus ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle a été enlevée, la sucette a été enlevée, Béatrice, Clé. Il semble qu'on l'aurait gardée à l'intérieur de Tombouctou et que les gens aient attendu le lendemain pour sortir discrètement à bord d'une voiture banale. Ça veut dire quoi? Que même si la zone est déserte, le quartier Baradjou, là où elle a été enlevée, mais il y a quand même un dispositif de sécurité dans cette zone-là. Vous avez, et pour terminer, trois ou deux composantes essentielles à Tombouctou. Vous avez l'armée malienne, vous avez les forces de la MINUSMA. Mais l'autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'on n'a pas assez de troupes à Tombouctou, ce qui fait que l'insécurité est difficile à maîtriser. Il n'y a pas assez de patrouilles. Les patrouilles s'arrêtent un peu plus tôt que prévu. Donc voilà ce que je pense.
Merci beaucoup Serge Daniel. Restez avec nous car l'émission ne fait que commencer. Alors Alkaïdi Touré, vous êtes député élu donc à Diré dans la région de Tombouctou. Aujourd'hui, comment expliquer ce genre d'événement en présence des forces étrangères dans votre région?
Merci beaucoup, Monsieur Sidibé. Je dis bonsoir à tous les auditeurs de ces radios partenaires, et particulièrement ceux du cercle de Diré. Et moi, je crois que l'analyse qui a été faite par Cornio et celle qui a été faite par Charles Daniel montre tout simplement qu'un désintéressement et un dispositif, et qu'il n'y a pas un bon dispositif pour la sécurisation des populations, c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. Ce problème au niveau du Nord, c'est un problème purement raciste. C'est tout. Si c'est à Tombouctou qu'il y a, mais à Kidal, parce que là-bas, ils sont avec les autres. C'est parce qu'ils sont ensemble. C'est toujours, chaque fois qu'il y a eu des attaques au niveau de toutes les régions, c'est toujours des Noirs qui sont attaqués. Qui dit moi? Moi, je dis que le Mali, là, est colonisé aujourd'hui, même plus colonisé qu'avant. Et je le dis à Charles Daniel, chaque fois qu'on touche à un hameau Touareg, je ne dis pas d'aller attaquer des Touareg. Mais c'est tous les médias français qui disent n'importe quoi. Mais quand il s'agit des Noirs, on ne dit rien, on massacre tous les jours les Noirs. Il y a un problème raciste dans cette histoire. Il faut voir, il y a plus de 2000 Mauritaniens qui sont là il y a plus de 20 ans, qu'on ne reconnaît pas tout simplement parce qu'ils sont Noirs. Mais les bases arrières des rebelles sont où? C'est en Mauritanie, c'est en Algérie, c'est partout. Il ne faut pas qu'on vienne nous raconter quoi que ce soit. On ne met pas de dispositif tout simplement parce qu'il n'y a que des Noirs là-bas, ça ne les intéresse pas. Sinon, on ne peut pas nous dire que Barkhane, avec tous les renseignements que la Barkhane a, tous les renseignements que la MINUSMA a, qu'on ne peut pas sécuriser une ville et qu'on vient, on enlève des gens, on va, le lendemain, on ne les voit pas, le seul lendemain, on ne les voit pas. Alors qu'en France, où on peut se cacher, où il y a des endroits où on peut se cacher, il suffit qu'il y ait un événement tout de suite, on met les grappins sur les auteurs. Non, je dis, il y a dans le problème du Nord, je le dis, je resterai constant, il y a des non-dits là-dedans. Et tant qu'on ne connaîtra pas ce non-dit, on continuera à divaguer. À Tombouctou, il n'y a rien d'autre qu'il n'y a pas à Kidal. Il n'y a rien d'autre qu'il n'y a pas à Kidal. Les gens qui sont là ne sont pas de bonne foi. Je le dis et je le répète. Si demain je sors ici qu'on me coupe la tête, je le dis, ils ne sont pas de bonne foi. Ils ne sont pas venus pour nous. Ils ne sont pas venus pour la sécurisation. Sinon, on dit les djihadistes, on dit les terroristes. Mais qui sont les propriétaires des industries d'armes? Qui fabrique les armes? qu'on arrête vraiment. Nous, on est fatigués. On est fatigués dans cette histoire-là.
Merci beaucoup, Al-Kaïdi. Alors, juste une précision, Serge Daniel ne représente pas un organe, mais c'est plutôt un spécialiste que nous avons aujourd'hui autour de la table.
Je lui parle parce que non seulement il représente un organe, mais c'est un spécialiste. C'est le représentant de RFI.
C'est compris, Al-Kaïdi. Alors, Serge, nous allons retourner vers vous aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut comprendre que ce genre de situation se survienne en présence donc toujours des forces étrangères et même de l'armée malienne à Tombouctou?
Alors, je vous remercie de faire la remarque parce que je ne suis pas là comme RFI, je suis là parce que vous dites, bon, je suis spécialiste, disons que je suis familier à ces problèmes. Mais je suis aussi noir que celui qui vient de parler et que s'il veut personnaliser le débat, moi je m'en vais immédiatement parce que je ne viens pas pour personnaliser le débat. On peut ne pas être d'accord, mais il faut que ça soit très très clair là-dessus. Je suis aussi noir que lui. Alors le problème, et je suis persuadé, et je l'ai toujours dit dans le nord du Mali, c'est que vous avez deux choses, et c'est valable pour Tombouctou, c'est valable pour Gao, c'est valable pour Kidal. Vous avez un mandat des forces onusiennes qui n'est pas un mandat qui permet de lutter efficacement contre le terrorisme sur le terrain. Ça, je l'ai dit avant tout le monde. Et l'autre chose, c'est qu'on s'est trompé sur les acteurs de la crise malienne. J'étais l'un des rares au début, si vous reprenez des discussions, j'ai écrit 3 livres là-dessus, j'étais le premier à dire que ce n'était pas le MNLA, c'est-à-dire le Mouvement National de Libération de l'Azawad, qui était en train d'attaquer le Mali, qui était le Mouvement National de Libération d'Azawad, avec des islamistes, des terroristes qui étaient en train d'attaquer le Mali. J'étais l'un des premiers à le dire, ça m'a valu ce que cela m'a valu à l'époque, vous vous souvenez. Mon idée, c'est que il n'y a tant que les Nations Unies, les forces internationales, ne vont pas composer des unités d'élite pour lutter contre le trafic d'armes, pour lutter contre le trafic de drogue, parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, un pick-up de cocaïne rapporte l'équivalent de 40 pick-up de cannabis. Donc c'est vraiment important. Tant qu'il n'y aura pas toutes ces structures-là, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Et c'est ce que je pense et c'est ce que j'ai toujours dit. Le mandat onusien n'est pas un mandat robuste pour pouvoir aider le Mali à sortir du labyrinthe dans lequel il est. Il faut un mandat plus robuste et il faut des forces plus offensives pour protéger les populations, également pour lutter contre le trafic. Et pour terminer, l'autre chose, c'est que la responsabilité de la sécurité dans le nord du Mali incombe d'abord aux Maliens. Il appartient également à l'armée malienne qui est en pleine recomposition. Il lui appartient également de dégager les moyens pour dire nous voulons quand même jouer un rôle très important. Vous savez, c'est simple, si demain le Mali demande aux forces onusiennes de quitter le nord du Mali, il y aura une discussion. Si le Mali seul peut assumer la sécurité de ce vaste territoire, mais ce qui m'étonnerait parce qu'il y a des enjeux colossaux, c'est ça le problème. Donc voilà ce que je pense de la situation.
Merci.
Nous sommes en train de tourner en rond parce qu'il faut un mandat plus robuste pour pouvoir assurer la sécurité dans le nord du Mali.
Merci Serge, Daniel. Nous allons observer une courte pause.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Studio Tamani, c'est les réseaux sociaux, c'est notre compte Twitter, c'est notre page Facebook, mais c'est également notre site web www.studiotamani en un seul mot.org où vous pouvez avoir accès à tous nos infos depuis le début donc de cette journée et même plus. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur l'insécurité grandissante à Tombouctou avec cet enlèvement vendredi dernier d'une ressortissante suisse à Tombouctou. Également, nous allons évoquer dans cette deuxième partie les assassinats donc des 3 jeunes devant une radio toujours à Tombouctou. Alors, juste avant d'entamer cette deuxième partie, Ousmane Cornio, aujourd'hui, la situation de la localité de Ber qui est toujours sous le contrôle des groupes armés, est-ce que on peut y remédier vu sa proximité avec la ville de Tombouctou et les antécédents qu'on connaît à cette localité, à ses occupants? Est-ce qu'on peut y remédier?
Oui, vous savez, merci. Vous savez que la ville de Beir représente un point stratégique pour les rebelles et pour les narcotrafiquants. Vous savez que...
Beir qui est seulement à quelques kilomètres de...
Ce n'est pas seulement à quelques kilomètres. Beir se trouve le bac par lequel les terroristes ou les rebelles traversent du nord vers le sud. Le bac se trouve à Beir. Tous les bacs qui sont sur le fleuve Niger sont contrôlés par des éléments maliens, sauf le bac de Beir. Et moi, je suis de Kouana. Après toutes nos enquêtes, toutes les pick-up qui ont traversé du nord vers le sud pour venir attaquer Kouana ont traversé par Beir. Donc Beir a toujours été une ville rebelle. Et les gens, ils gardent Beir pour leur entrée dans le sud et pour leur sortie du sud vers le nord. Ce qui fait que Beir est une ville rebelle, c'est une zone rebelle. Et je crois que les gens, ils le savent, mais est-ce qu'ils ferment les yeux là-dessus, dans la mesure où tout le monde sait que si on ferme la porte de Beir entre le sud et le nord, on peut sécuriser et on peut contrôler le trafic et des mouvements et rebelles et des mouvements terroristes. Mais je ne sais pas pourquoi on laisse le bac à Beir, est-ce bien, à la merci des rebelles qui traversent comme ils veulent, qui attaquent et qui se replient comme ils veulent. Beir est à quelques kilomètres de Kidal, de Tombouctou. Beir a toujours été rebelle. Moi, j'ai mené une activité, un projet de récupération des armes légères dans la région de Tombouctou. J'ai travaillé avec Beir et j'ai constaté qu'en fait, les gens qui sont à Beir ont une double face. Tantôt, ils ont toujours été tantôt maliens, tantôt et retournés vers le nord, et ça vient, avec des activités de non-dit, de trafic, dans la mesure où on connaît que la ville de Beir, le centre de Beir, est le centre le plus riche, et ça vient, des communautés arabes dans la zone.
D'accord.
Qui fait que Beir, c'est vraiment une particularité, je crois qu'il doit être géré et très particulièrement. Et dans la situation que nous vivons.
D'accord. Alors, quelle est l'influence de Beir sur la ville de Tombouctou, Al-Kaïdi?
Bah, c'est exactement l'explication que Cornio vient de donner. Mais moi, je vais réagir à ce que Serge a dit. Moi, je lui présente mes excuses. Il croit que j'ai personnalisé le problème. Je n'ai pas personnalisé. Mais je veux que la RFE aussi traite les informations de la même manière, que ce soit des noirs, que ce soit des violets, que ce soit des
ceci
blancs.
Est dit.
Voilà, ceci est dit. Ceci étant, moi, je dis que j'adhère exactement
au
propos de Cornio. Et je voudrais revenir en arrière aussi pour dire à Serge que moi je ne comprends même pas la mission de l'AMINISMA. Parce qu'on nous dit que l'AMINISMA est là pour sécuriser les personnes et leurs biens. Vous ne pouvez pas sécuriser des personnes et des biens quand vous ne pouvez pas empêcher à ceux qui doivent attenter, que ce soit des rebelles, c'est-à-dire des milices noires qui veulent attaquer des hameaux tamashek ou vice-versa. Dès l'instant que vous ne pouvez pas empêcher que ces populations soient atteintes, que leurs biens soient atteints, moi je ne sais même pas la mission de l'AMINISMA. Parce que c'est ce que je ne comprends pas. Et c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit que quand on avait attaqué l'AMINISMA, le camp, on a brûlé leur camp à Kidal, ils n'ont pas tiré sur les enfants. Mais pourtant, ils ont tiré sur les enfants à Gao. Ça, c'est deux poids, deux mesures.
Alors, la situation de Gao dont vous parlez, qui a été sanctionnée, enquête a été ouverte et les auteurs ont été sanctionnés. Alors, Serge, Daniel, revenons sur cette situation de Beir avant de clore définitivement cette première partie. Et quelle est l'influence sécuritaire de Beir sur la ville de Tombouctou?
Je ne veux pas faire un retour en arrière, mais le monsieur, l'ami de Diré, dont je n'ai pas retrouvé le nom, quand il me parle, il dit qu'il aimerait dire à Serge que l'AMINISMA, moi je ne suis pas l'AMINISMA, donc il s'adresse directement à l'AMINISMA. Encore une fois, nous ne personnalisons pas le débat, je ne suis pas là pour représenter la ville, pour représenter l'AMINISMA. C'est mon point de vue sur la question. Voilà. Maintenant, pour revenir à Beir, et ça, c'est pas nouveau. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous avez dans une zone des groupes armés, vous voyez à 100 km à la ronde, vous avez des gens, parfois même dans la région de Tombouctou, vous avez des groupes armés qui ont 4 véhicules et qui contrôlent le secteur. Évidemment, c'est une route stratégique. Beir représente pour Tombouctou, par exemple, ce que exactement bah, une localité dans la région de Gao, comment s'appelle, j'oublie un peu cette localité, ce qu'un éfice représente par exemple entre Gao et Kidal. C'est ce qu'on appelle un axe stratégique, est-ce que vous voyez. Moi je verrais bien par exemple à Beir
des forces internationales sur place contrôler la forêt. Vous avez ce qu'on appelle des hubs, c'est-à-dire des points centraux, des points importants dans le nord du Mali, qui doivent, à mon avis, être sous le contrôle de forces internationales, capables de rentrer tout de suite en action, de lutter contre les islamistes, et bien également contre les fauteurs de troupes et trafiquants de cigares. Vous savez ce qui s'est passé récemment à Bouzbéa, à 220 km au nord de Tombouctou. Vous avez une réunion intercommunautaire, et à quoi on assiste? On voit un convoi d'islamistes armés. On a même revu des gens qui étaient à Tombouctou à l'époque de l'occupation, qui viennent pour imposer leur loi, pour interrompre la réunion, et pour dire qu'eux, ils sont les islamistes, et qu'ils mettent en garde tous ceux qui travaillent pour les forces internationales ou les forces ennemies. Et quand même, lorsqu'ils ont un convoi de plusieurs véhicules, il y a quand même dans la zone, vous savez, il y a dans la zone des drones, il y a dans la zone des avions, il y a dans la zone des militaires, des forces étrangères, qui peuvent quand même apercevoir ces convois.
Et réagir.
Et réagir, justement. Mmh. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de forces mobiles, mais en même temps armées, pour lutter contre le trafic, dans les trafics dans cette zone-là. Sinon, on ne pourra pas parler de paix. Mmh.
Merci beaucoup, Serge, pour ces éclairages. Alors, nous allons donc passer à la deuxième partie, assassinat des trois jeunes et l'enlèvement de la ressortissante suisse. Qu'est-ce que cela a créé comme émoi dans la zone de Tombouctou, les assassinats de ces trois jeunes devant cette radio Al-Qaïdi?
Ben, merci beaucoup, Sidi B, mais c'est la psychose. Les gens ont peur. Ils ont absolument peur. Parce qu'on est venu assassiner trois jeunes à l'intérieur de la ville. Et jusqu'à présent, ils courent. Jusqu'à présent, ils courent. Personne ne sait ce qui s'est passé. C'est ça le drame. Et quand on me parle de patrouille, mais l'armée malienne est aussi emprisonnée que le Mali est emprisonné au nord. Hein. Nous sommes tous au Mali, là. Le Mali n'existe pas au nord. Ça, il faut qu'on le dise clairement. Donc, l'armée est emprisonnée. L'armée ne peut rien faire. Sinon, l'armée, sa mission régalienne, c'est de protéger les populations civiles avec l'aide des forces internationales. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Même quand l'armée veut intervenir, on lui dit de laisser, sinon on va dire que vous avez violé le cessez-le-feu. Mais le cessez-le-feu a été violé combien de fois ici? Personne n'a dit un mot. Mais pourtant, chaque fois que l'armée intervient, ne serait-ce que pour empêcher à ce que des populations civiles meurent, mais on crie au scandale, on crie à la violation de cessez-le-feu. Donc je crois que ce que ça a créé là-bas, vous n'avez pas besoin de le dire. Les gens reviennent toujours à leurs anciens souvenirs, ce qui s'est passé au moment de l'occupation. Donc, et ça, c'est très grave. Mm. Par rapport à la Suissesse, moi, je crois qu'elle, on ne peut rien contre elle. On l'a enlevée une première fois, elle est restée, dit qu'elle ne va pas s'en aller. Mais il n'y a pas de problème. Celle-là, c'est une population, c'est une ressortissante de Tombouctou. Si on l'enlève, bah, je crois qu'elle, ce n'est pas une Suissesse, hein, c'est plutôt une Tomboxienne.
Oui, alors, malgré le fait que ça soit le cœur qui parle, elle reste une ressortissante suisse. Alors, Ousmane Cornio, un mot sur cette question des assassinats?
Oui, cette question, et je crois qu'il y a une particularité pour cette question d'assassinat. Vous savez, les trois jeunes qui ont été assassinés, et parmi eux, il y avait un ou en tout cas un chrétien. C'était des animateurs aussi dans une radio qui est en rapport avec les chrétiens. Ça c'est hein. Et la dame qui vient d'être enlevée, elle est missionnaire. Être missionnaire, c'est un sacerdoce. Ça veut dire qu'on se confie à Dieu. On n'a plus peur que de Dieu, pas des hommes. Mais ce qui est quand même particulier, c'est qu'elle ait été enlevée une première fois, libérée, et qu'elle revienne. Et qu'elle reste. Elle n'a même pas dit qu'elle reste.
Malgré les mises en garde.
Les mises en garde, ça veut dire qu'elle ne craint rien. Donc je crois que si vous-même, vous ne craignez rien pour vous, je ne sais pas si quelqu'un a le droit de craindre quelque chose pour vous. Celle-là, elle n'est pas suisse, elle est une malienne. Elle doit sûrement avoir des entrées. Et je ne sais pas quels ont été les rouages pour la libérer la première fois. Peut-être que les mêmes rouages vont être actionnés la seconde fois pour la libérer. Mais alors, ce qu'il y a, c'est quand même que ces deux structures, c'est-à-dire elle, la missionnaire, et son habitation et ses activités, et la radio et plus ses acteurs devraient quand même bénéficier d'une sécurité particulière, dans la mesure où on sait que la zone est infestée et des djihadistes. Mmh. Et ces djihadistes-là luttent aussi bien pour l'expansion de leur idéologie musulmane particulière, mais aussi contre toute autre idéologie contraire, dont l'idéologie chrétienne.
Mmh. Alors Serge, Daniel, j'aimerais revenir sur cette question de l'enlèvement de la ressortissante suisse. Elle a été enlevée une première fois et la médiation burkinabé avait permis sa libération au moment où le dialogue était encore possible avec certains acteurs islamistes. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut craindre pour que la situation soit davantage plus compliquée qu'avant?
Alors, je vais faire remarquer une chose, vous voyez, ceux qui étaient enlevés, si c'était, permettez l'expression, si c'était pour la, si c'était pour l'abattre, ils l'auraient abattu. Hein. Ils l'auraient abattu si c'était pour l'abattre. Donc l'objectif n'était pas de la tuer immédiatement. L'objectif était de l'enlever. Donc l'enlever, c'est probablement parce qu'ils ont une revendication. Or, la marque de Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est d'enlever des otages et de les libérer contre le paiement d'une rançon. Donc il y a un faisceau de présomption, à mon avis, qui tolère la thèse selon laquelle ceux qui l'ont enlevé sont aussi un peu otages de la situation. Si c'est directement Al-Qaïda ou si ce sont des sous-traitants d'Al-Qaïda plutôt, d'après ce qu'on apprend. Donc, à mon avis, ça n'engage que moi, sa vie immédiatement n'est pas en danger, parce que vous savez, la règle, c'est qu'ils vont faire une revendication. Il n'y a pas eu encore de revendication claire là-dessus, mais ils vont faire probablement une revendication et ensuite ils vont commencer à négocier pour obtenir quelque chose pour la libérer. Si vous faites attention, elle est libérée lorsqu'elle était enlevée. Le lendemain, Al-Qaïda au Maghreb islamique a diffusé les photos de deux otages qu'ils détiennent, et la coïncidence est quand même troublante. Est-ce que, en disant justement au gouvernement européen, au gouvernement d'où sont originaires de ces otages-là, ces deux otages, écoutez, il faut satisfaire immédiatement à nos revendications. Alors, est-ce que c'est une manière de dire, nous sommes prêts à libérer les deux autres contre paiement de rançon, contre libération de nos de djihadistes arrêtés dans des pays du Sahel, et mais au même moment on prend un autre otage pour avoir toujours quelque chose en main. Donc bref, pour me résumer, dans l'immédiat, je ne suis pas inquiet de la sécurité de Madame Béatrice Stockley, parce que si l'objectif était de la tuer dès le départ, ils auraient pu la tuer à Tombouctou. Est-ce que vous voyez? Mais si on l'enlève, c'est probablement pour revendiquer quelque chose. Mais cela dénote quand même de l'instabilité qui règne toujours dans le coin, puisque à Tombouctou, dans la région de Tombouctou, ce qui se dit, c'est que Yahya Abou Hammam, qui est le chef d'Al-Qaïda dans le nord du Mali, il serait dans cette zone-là. Et donc l'insécurité est quand même quelque chose de très présent toujours dans la région de Tombouctou. C'est l'analyse que j'aimerais bien faire.
Alors Serge, le fait que la ressortissante soit aujourd'hui une femme, est-ce que cela va à son avantage?
Ce n'est pas la première fois qu'ils enlèvent des femmes. Ils ont enlevé plusieurs femmes, des touristes notamment. Je me souviens d'une Allemande, elle avait 73 ans, elle a été battue, elle, par exemple. Ils ont enlevé aussi une ressortissante espagnole en Mauritanie, qu'ils ont ramené dans le nord du Mali. Est-ce que c'est un avantage? Généralement, c'est un avantage. Mais il faut savoir que des femmes ont été brutalisées. Mais c'est un avantage parce que tout de suite, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont l'isoler. Et ils veulent quand même jouer sur l'opinion. C'est-à-dire que quand la Suisse va apprendre, par exemple, malgré l'imprudence de Béatrice, mais quand la Suisse va apprendre que c'est une femme qui a été enlevée, vous voyez, l'opinion va jouer probablement. Ça va jouer sur la réaction du gouvernement suisse, qui va se dire, non seulement c'est une ressortissante suisse, mais c'est une femme, et donc il faut qu'on évite une négociation. Donc, à mon avis, c'était assez calculé de l'enlever, visiblement par des sous-traitants qui vont, entre guillemets, la revendre, et je pense que dans les jours, peut-être dans les semaines qui suivent, on devrait pouvoir avoir de nouvelles directes de Madame Béatrice Stockley.
Merci beaucoup, Serge. Merci à vous, messieurs. Nous allons observer une courte pause.
Une réaction.
Un avis.
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur l'insécurité grandissante à Tombouctou, cet enlèvement et les assassinats des trois jeunes. Alors Serge, nous allons terminer cette phase avec vous. Vous ne vous êtes pas prononcé sur les assassinats des trois jeunes. Qu'est-ce que vous en dites?
Alors, c'est un peu ambigu. Pour le moment, il y a tout à l'heure, j'ai entendu une analyse que je partage en partie. Tombouctou est quand même vaste. Vous savez qu'ils ont été assassinés le jour où le chef d'état-major des armées maliennes, l'armée malienne, était en visite à Tombouctou. Donc, supposons, c'est évident que la sécurité était renforcée. Vous avez quelqu'un qui vient à pied, qui est armé, qui tire sur des gens devant une radio. Il y a la nature de la radio. Une radio qui a des rapports, qui la radio catholique chrétienne de Tombouctou, comme on l'appelait. Ensuite, c'est un animateur, donc c'est un journaliste. Est-ce que c'est un djihadiste qui l'a fait? Est-ce que c'est un terroriste? C'est un acte terroriste de toutes les manières. Mais est-ce qu'également c'est un acte privé? Vous savez que la presse malienne, à un moment, a évoqué des problèmes privés. C'est seulement l'enquête, à mon avis, qui peut le prouver. La première leçon qu'on peut tirer de cette affaire, la deuxième leçon également, c'est que, encore une fois, l'insécurité règne sur cette partie du territoire national parce que nous avons des forces en présence qui, je le répète, n'ont pas le mandat qu'il faut pour pouvoir ramener la sécurité dans le septentrion malien.
Merci beaucoup Serge. C'est donc tout pour cette partie sur les assassinats et le rapt de la ressortissante suisse. Nous allons voir maintenant avec nos invités comment sécuriser, quelles sont les pistes possibles pour mieux sécuriser la ville de Tombouctou et de façon générale la région de Tombouctou. Al-Khalidi, est-ce que vous avez une idée sur la question et quelles sont les propositions que, par exemple, l'opposition a faites à la majorité allant dans ce sens?
Aujourd'hui, s'il y a des solutions, il faudrait d'abord dire que la première solution, c'est qu'on a signé l'accord pour la paix et la réconciliation. Il faudrait qu'on vienne au cantonnement et au désarmement. Ça, c'est la première solution. Si ça s'est fait, je crois que des individus isolés, même si c'est des djihadistes, ne peuvent pas braver et Barkhane et l'AMINUSMA et les forces maliennes. Et qu'on laisse au moins... comme Serge l'a dit, le rôle de la sécurité des populations revient à l'armée. Mais je vous dis que l'armée elle-même est emprisonnée. Elle n'a pas les mains libres. Si l'armée avait les mains libres, avec l'assistance des forces internationales, je crois qu'aujourd'hui, le problème du Nord serait terminé. Mais malheureusement, l'armée est cantonnée. Elle ne peut pas se mouvoir. Ceux qui peuvent le faire aussi ne le font pas à hauteur de souhait. Parce que je crois que, comme Serge l'a dit, il revient, il dit qu'il n'est pas l'avocat, il n'est pas le représentant de l'aménagement. Encore, il parle de l'aménagement. Moi, je dis, quelle que soit la robustesse de ma chaîne de qu'on va donner à l'aménagement, tant qu'elle n'est pas elle-même décidée à intervenir et à bien intervenir, je crois que le problème ne sera pas résolu. Donc aujourd'hui, il faut mettre les forces de sécurité, il faut leur donner suffisamment de moyens et il faut faire des stratégies pour chaque fois circonscrire le problème. C'est ça. Il faudrait qu'on laisse l'armée libre. Mais au nord, tant qu'il n'y aura pas le cantonnement, le désarmement, je crois que le problème restera entier. Parce qu'on ne sait pas qui a fait quoi et qui fait quoi. Parce que le problème du djihadisme, le problème du MNLA, le problème de tout ce que vous dites là, moi je crois que c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Parce que dans tous les cas, les djihadistes étaient là avec le MNLA. Le MNLA est là pour lutter contre le terrorisme. Mais qu'ils nous disent quelles actions terroristes ils ont fait depuis qu'ils sont là. Pourtant, ils disent que la France est avec le MNLA pour lutter contre le terrorisme. Qu'on nous dise. Donc le terrorisme, on lutte contre le terrorisme à Gao, à Kidal, on ne lutte pas contre le terrorisme à Tombouctou. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelle est cette manière-là?
Merci.
Quelle est cette stratégie?
Merci Al-Khalidi pour ces éclairages. Alors Serge Daniel, aujourd'hui, cette question de comment sécuriser la région de Tombouctou peut paraître singulière, mais il y a également les deux autres régions, Gao et Kidal. Aujourd'hui, est-ce que la situation, si elle continue, sera-t-elle tenable?
Non, elle ne sera pas tenable. Et l'erreur qu'on commet, c'est de penser qu'on peut sécuriser, il faut sécuriser Tombouctou pour que la paix revienne. Il faut en fait, et ça je le répète, le cantonnement, vous allez le voir, le cantonnement aura lieu, il faut qu'il aille qu'on aille rapidement, puisque les sites sont identifiés, puisqu'on commence déjà par construire sur les sites. Mais le cantonnement ne va pas régler les problèmes. Il faut dépassionner de ces débats-là. Si vous pensez que le cantonnement, parce que les gens seront cantonnés, que le problème sera, du Nord sera résolu parce que les gens seront cantonnés, ça ne va rien résoudre. Il faut une double action, une action que j'appelle une action concomitante, c'est-à-dire que au moment où vous avez le cantonnement qui se déroule, il faut déployer cette force d'élite, cette force internationale, à mon avis, pour lutter contre le trafic de drogue, pour lutter contre le trafic d'armes, pour lutter contre le trafic d'êtres humains, parce qu'il y a des trafics d'êtres humains là-bas. Si vous n'avez pas cette force internationale, de manière permanente d'ailleurs, pour lutter contre tous ces trafics, pas seulement le nord du Mali, parce qu'on est avec le Niger est frontière avec les Libyens, etc., le Tchad est non loin. Si vous n'avez pas, on n'a pas une force permanente internationale pour lutter contre tous ces trafics-là, vous ferez désormais demain le cantonnement, mais vous allez avoir les troupes qui sont cantonnées, mais au même moment, vous allez entendre des coups de fusil à 10 kilomètres, vous allez avoir des avions qui vont venir larguer des colis suspects, notamment de la drogue. Vous savez que récemment, on accuse, certains ont vu probablement de petits avions venir larguer encore de la drogue dans le nord du Mali. C'est ça le véritable problème du nord du Mali. Le nord du Mali, c'est aussi un problème de gouvernance. Le nord du Mali, c'est un problème de gouvernance également, de vision pour tout un pays. Il y a tout cela. Donc le cantonnement est un élément important, et j'en aurais terminé, mais ce n'est pas un élément suffisant pour ramener la paix dans le nord du Mali.
Alors, Serge anticipe donc ma question. C'était celle qui vous est destinée, Ousmane Kornio. Aujourd'hui, est-ce que le cantonnement, le désarmement et cette réinsertion tant attendue sont les véritables solutions à cette insécurité dans l'ensemble du nord, des trois régions du Nord?
Oui, je crois que c'est une partie de la solution. Mais qu'on sache qu'en fait, que chaque fois qu'on annonce à l'issue d'une crise un cantonnement, on assiste à des actes de terrorisme, de banditisme, pour deux raisons. Une première raison, c'est qu'en fait, le poisson, il n'a sa force que dans l'eau. Quand ces hommes, les groupes armés seront cantonnés et désarmés, et la seule force qu'ils avaient de revendication, c'est les armes.
Et c'était la mobilité également.
La mobilité et puis les armes. Mais dès qu'ils seront désarmés, quelles seront leurs forces de revendication? Donc, en fait, actuellement, où on est dans une situation ni paix ni guerre, ils ont d'abord un problème de chirurgie. Il faut voir, je suis en train de réaliser une étude, comment les populations de la région de Kidal vivent aujourd'hui, comment les populations souffrent. On parle de trafic de drogue, mais ce n'est pas tout le monde qui fait le trafic de drogue. La majorité des populations souffrent et personne ne vient en secours. Donc, on dit qu'on va les cantonner, certes, et ça va leur donner un avenir peut-être meilleur que ce qu'ils vivent actuellement, mais c'est l'inconnu total pour eux qui fait que ces gens disent, bon, écoutez, en attendant qu'on se cantonne, ouais, écoutez, on va essayer quand même de pourvoir à nos besoins de survie. Mais parallèlement à cette préparation de cantonnement, nous avons aussi les groupes rebelles qui se disent, bon, écoutez, il faut harceler. Parce qu'en fait, si on harcèle, on risque de mettre à mal le processus de...
Harceler qui? Le gouvernement?
Harceler tous les acteurs. En fait, les acteurs, parce que selon l'étude que je suis en train de réaliser, ce n'est pas seulement les populations civiles noires qui sont victimes, hein, dans la région de Gao et dans le nord de la région de Tombouctou, et même Gao vers Menaka, même des sites et des fractions nomades et touaregs sont harcelés aujourd'hui par des groupes armés dont on ne sait d'où ils viennent. Donc, il fait qu'il y a tout un embrasement d'insécurité qui essaie de remettre des interrogations quant à la viabilité du cantonnement. Mais maintenant, je suis sûr que si on arrive à cantonner ces éléments, c'est une manière de déblayer et de balayer tous ceux qui resteront. Ce sont ceux qui ne sont pas pour la paix ou les terroristes. Alors, on donnera libre cours à l'opération Barkhane d'attaquer alors tous ceux alors qui sont déplacés, qui se déplacent dans la zone. Mais tant qu'on ne cantonne pas, ben écoutez, on ne sait pas ceux qui se déplacent, et qui est rebelle, qui est terroriste, qui est djihadiste. Donc on est dans une population, dans une situation de sursis actuellement, où on peut se déplacer librement avec son arme en attendant le cantonnement. Et dans toutes les dans tous les processus de négociation vers le cantonnement, cette période est une période très 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 critique. Et donc moi je ne suis pas surpris de l'insécurité actuellement qui est en train de se passer dans les trois régions. Mais si on arrive à faire le cantonnement, je crois que il y a une partie de la solution qui a été atteinte.
Al-Kaïdi, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière est-ce que les populations accueillent ce processus de cantonnement?
Mais j'ai dit que dès l'instant que les armes vont se taire, je crois que les populations ne peuvent que bien accueillir la cité. Parce qu'il faut que les armes se taisent. Et j'ai, comme Cher l'a dit, je n'ai pas dit que c'est la solution. C'est une des solutions. Parce que, comme Kouarnio vient de le dire, l'analyse est claire. Dès l'instant que tous ceux qui étaient là, rebelles, et qui ont accepté de signer l'accord de paix, aujourd'hui reviennent à la norme et veulent aller à la paix. Ils acceptent d'être cantonnés, ils acceptent d'être désarmés. Donc ceux qui vont rester, c'est des ennemis de la paix. Et c'est facile à combattre. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit deux motos ne peuvent pas quand même combattre un chien. Ça, c'est quand même, c'est clair. Parce que tous ceux qui sont en train d'être actifs au nord du Mali, que ce soit à Kidal, que ce soit à Tombouctou, que ce soit à Gao, c'est des gens qui sont sur des motos. Et dans le cercle d'Iré, et tous les jours de fois, deux motocyclistes viennent, ils font des dégâts là-bas. Et c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit que le problème que nous avons, comme Serge l'a dit, il y a un problème de gouvernance là-dedans. Parce que quand il faut toujours prévoir en amont les choses. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des problèmes d'abord pour trouver les solutions. Dès qu'il y a des petits incidents, on vous dit qu'il faut mettre un axe de sécurité pour que ça ne revienne pas. Mais vous laissez les choses évoluer, grandir. En ce moment, ça va dépasser votre capacité d'intervention. Donc chaque fois qu'il y a des problèmes, on l'a dit au ministre de la Sécurité, il y a des endroits où il y a des problèmes qu'on peut gérer. Ça permet ça de ne pas généraliser. Mais si ces petites poches ne sont pas circonscrites, vous voyez ce que ça va faire. Et c'est ce qui est arrivé. Comme quelqu'un l'a dit, Amadou Koufa avait fait ses prêches ici, personne n'a dit un mot. Mais aujourd'hui, voilà, il y a un problème. Si en ce moment-là, les autorités l'avaient arrêté pour lui dire que ce que vous êtes en train de faire, ça va créer le désordre, la déstabilisation du pays, je crois qu'aujourd'hui, on ne serait pas là.
Donc vous pensez qu'il faut beaucoup d'anticipation?
Il faut toujours anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Il faut toujours anticiper. Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas minimiser. Quand il y a un problème, quand je le dis à Cornio doit le prendre au sérieux. Parce que celui qui est là aujourd'hui pour ma sécurité, si je lui dis un problème, il ne doit pas le minimiser.
Donc vous pensez de vos relations, vous êtes en train de caricaturer les relations entre l'opposition et la majorité?
Non, moi je ne caricature rien. Moi je ne suis pas cet opposant-là qui caricature, je ne caricature rien au Mali. Parce que si le pays-là va bien, c'est pour tout le monde, c'est pas pour quelqu'un. Et c'est toujours ce que je leur ai dit. J'ai dit que quand il s'agit du Mali, il n'y a ni opposition ni majorité. Mais le problème est que c'est certains à la majorité qui croient que le fait aujourd'hui qu'ils ont la responsabilité de gouverner, ils croient qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les autres. Moi je ne suis pas de ce principe.
Merci beaucoup Al-Kaïdi. Alors une dernière question à Serge et pour mettre fin à cette émission. Alors Serge, une fois le cantonnement effectif aujourd'hui, quelle sera l'influence des groupes terroristes dans le Nord?
Alors la première chose qui va se passer quand il y aura le cantonnement, à mon avis, les groupes seront plus mobiles parce qu'ils vont savoir qu'il sera difficile de se dissimuler parmi les groupes armés. Parce que vous voyez ce qui se passe par exemple à Kidal. Le camp de l'administration est au sud de Kidal, vous avez les groupes armés, les islamistes qui viennent, alors que les groupes armés sont dans la ville, les islamistes viennent attaquer le camp de l'administration. Donc ça c'est... Mais l'autre chose, c'est que vous allez avoir les conflits, et ça c'est très important, le cantonnement sera une chose, mais vous avez les rapports intercommunautaires. La question, c'est une question aussi tribale. Et si donc vous devez parler avec les communautés, vous devez les écouter, M. Cornillo disait tout à l'heure, mais ce ne sont pas seulement les Noirs qui souffrent. Vous avez des Touaregs qui disent qu'ils ne sont pas contents, qui souffrent. Et donc voilà, ça c'est très important. Le volet humain de cette crise-là, il faut quand même l'analyser, il faut voir les choses terre à terre, voir les choses, dire les choses parfois brutalement, laisser les communautés parler entre elles pour que la paix reviennent dans le nord du Mali.
Merci beaucoup Serge Daniel. Vous étiez l'un des trois invités, Ousmane Cornio, et spécialiste des questions de sécurité dans le Sahel. Et Al-Kaïdi Touré était également avec nous. Il est député élu à Diré dans la région de Tombouctou. Le débat d'aujourd'hui portait sur l'insécurité dans la région de Tombouctou. Nous avons passé en revue l'ensemble des événements majeurs qui se sont déroulés dans cette zone, notamment les assassinats des trois jeunes devant cette radio dans la région et également cet enlèvement vendredi dernier de la ressortissante suisse dans la région. Je suis Famoussa Sidibé, Gagné Kanté était à la technique, Ayoubassou a réalisé cette émission. Jamal Malik Kansai était à la régie vidéo. Nous vous disons bonsoir et à demain pour un autre débat. Bonsoir.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.